Ciao.
Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MJV. Les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Hello.
Il est 9h40 sur France Inter et c'est le dernier instant même de la semaine.
Vous êtes en direct, allez-y.
Connaissez-vous le 1 ? Ce petit journal qui se déplie chaque mercredi jusqu'à devenir grand comme une nappe parce qu'il faut de la place pour que s'entrechoquent les idées sur un même sujet. Connaissez-vous America, formidable projet éditorial, l'un des plus palpitants à mon avis du moment, demandez aux écrivains américains de raconter leur pays sous l'ère Trump. Et puisqu'il y a des gens pour écrire et manifestement des gens pour les lire, la même petite bande a décidé de se lancer dans le récit de la France et d'en faire une revue trimestrielle. Quelle arrogance, diront les uns, vouée à l'échec, diront les autres. C'est ça la France. Soit on la comprend mieux que les autres, soit on ne la comprend pas.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Hein, c'est un peu ça la France, soit on la comprend mieux que les autres, soit on ne la comprend pas. Bonjour Éric Fotorino.
Bonjour Sonia, il ne faut pas la quitter en tout cas.
Exactement. Ancien patron du Monde, écrivain et directeur des journaux, susnommé Zadig, car c'est son nom. Zadig, c'est pas pour tout de suite, alors c'est rare qu'on fasse une émission avec le journal pas entre les mains. Le journal, vous l'avez bouclé cette nuit, vous avez des tout petits yeux d'ailleurs, vous vous êtes couché très tard.
Oui, même certains dans l'équipe ne se sont pas couchés. Moi, pour être là à peu près bien ce matin, j'ai essayé de grappiller quelques heures.
Voilà. Donc ça s'appellera Zadig, on vous le dira quand ça sortira en kiosque et en librairie. Mais bon, qui dit France et qui dit presse papier, ça va pas la tête, bah donne envie forcément d'être invité. Sinon, on est en vendredi et tous les vendredis, on a Bruno Donnet avec nous. Ça va Bruno ?
Bonjour Sonia, ça va très bien, merci.
Alors d'abord, on joue avant Bruno, c'est la Madeleine du vendredi. Je vous offre aujourd'hui un très beau DVD édité par nos amis de Lina, Roméo et Juliette à la Comédie Française, mise en scène par Éric Ruff. Pour cela, vous vous jetez sur votre clavier avec mon adresse l'instant M, tout attaché, à radiofrance.com et vous répondez à la question suivante. De quelle émission vous allez entendre cet indicatif? Non, la question est très mal formulée. De quelle émission était cet indicatif? C'est mieux ça? Bon bref, je vous passe un générique pour reconnaître l'émission. Alors, qu'est-ce que c'était que cette émission? Donc, l'instant M à radiofrance.com, Bruno Donnet chute, il a reconnu, c'est parti. Bruno, avant-hier soir, vous avez regardé La Grande Explication, c'était le titre, le débat que la chaîne LCI proposait entre le Premier ministre et une dizaine de Français. Et vous nous dites que vous y avez vu une grande nouveauté dans la mise en scène du débat public.
Oui Sonia, il s'est passé dans ce débat quelque chose de très nouveau, tellement nouveau que l'éditorialiste du Figaro, Yves Tréhard, qui était chargé de le conclure, a bien failli en avaler son chapeau.
Je trouve que ce débat a été d'une très grande violence.
Juger que les échanges avaient été d'une violence inouïe. Mais, en employant ce qualificatif, les a-t-il pour autant parfaitement résumés ? Pas sûr. Car ce débat ne fut pas violent, il fut surtout inhabituel. Mais attention, inhabituel au sens des codes de la télévision, ce qu'il ne faut surtout pas confondre avec la réalité. Non. Nous y reviendrons. Alors, qui y avait-il d'à ce point original dans ce programme ? Eh bien, d'abord, le moment de sa diffusion était assez singulier. Car si jusqu'ici, il était régulièrement arrivé que des politiques viennent causer dans le poste avec des Français des vrais, ça ne se produisait généralement qu'au moment des élections, lorsque, devenus candidats, les politiques en campagne jugeaient payant de venir se soumettre non plus au questionnement des journalistes, mais à celui de Monsieur Tout-le-Monde. Mais ce qui a changé surtout, c'est la nature du casting et la teneur des propos que l'on a entendus sur LCI. Car jusqu'alors, lorsque la télévision invitait des Français, leur principale mission consistait à dire « je » et à témoigner de leur difficile réalité. La télé cherchait ainsi de l'émotion et du décalage entre les Français et leurs élites. Seulement voilà, elle choisissait de faire incarner tout ça par des gens polis, respectueux de la fonction politique, bref, par des gens méticuleusement sélectionnés, briefés et auxquels tout le monde, y compris les représentants politiques, était parfaitement habitué. Or, qu'a-t-on vu avant-hier dans le débat dont je vous parle ? Eh bien, on a vu un sacré coup de pied au cul du conformisme cathodique, car des Français se sont adressés au Premier ministre, non plus comme on s'adressait à lui traditionnellement à la télévision, mais comme cela arrive désormais, tous les jours et depuis des années, dans la rue, c'est-à-dire dans la réalité, Nous y voilà. Ils ne lui ont donc pas seulement raconté leur quotidien, mais ils lui ont donné leur point de vue sur son action. Un chef d'entreprise l'a engueulé copieusement en lui demandant des comptes.
Nous avons parlé tout à l'heure des 1070 milliards que vous prenez dans nos poches. Et vous faites moyen d'être découvert.
Une retraitée lui a fait part de son désir de plus de politique concrète, lui faisant observer qu'il était également possible, d'après elle, d'agir sur des leviers extrêmement terre-à-terre, comme par exemple la hausse des prix dans les supermarchés.
La grande surface, elle se fait des profits colossaux sur notre dos. Et ça, c'est pas normal. Il va falloir que vous trouviez une solution pour condamner ces industriels.
Tandis qu'un patron de restaurant infiniment décomplexé et d'une vulgarité édifiante lui expliquait que parce qu'il estime que la France croule sous trop de taxes, il en avait imaginé une nouvelle.
Donc la taxe en question, elle est très simple, c'est la TSGC, c'est la taxe sur le grattage de cul.
La classe. Alors voilà, dans cette émission, on a donc vu des Français parler dru, parler cru et illustrer, on peut s'en désoler, la grande dégradation du niveau du débat public à laquelle on assiste un peu partout. Seulement voilà, ça n'était pas violent, c'était tout simplement sans filtre, sans phare, car la grande vertu de ce programme et de ceux qui l'ont organisé, c'est d'avoir réussi à mettre en scène le débat politique, non pas comme on aimerait qu'il soit, mais tel qu'il est.
Merci beaucoup Bruno. La semaine médiatique est à réécouter sur franceinter.fr et je précise que cette semaine, le 1 justement de Monsieur Fotorino, réveillez-vous Monsieur Fotorino.
Ça y est, je suis là.
Le 1 justement est titré Le grand débat utile ou fut-il. Je vous rappelle que c'est donc ce petit journal.
Bon petit jeu de mots. Hein.
Bravo, je vous félicite. Merci. Vraiment, je vous félicite et je félicite également Carole, notre auditrice et non pas éditrice, notre auditrice qui a reconnu l'indicatif de « on a tout essayé » que présenta Laurent Ruquier entre 2010 et 2014. Laurent Ruquier qui sera d'ailleurs mon invité lundi matin. Allez, à 2010-2014, non ? Non, 2000, je me suis trompée sur la date. 2000. Bon, bref, je me suis trompée sur la date de Laurent Ruquier de « on a tout essayé ». Je vous la redonnerai tout à l'heure. Allez, on va parler de Zadig.
L'instant M, l'actualité des médias sur France Inter.
Alors voilà, Éric Fotorino, on a trouvé une pépite. C'était le 29 décembre 1970, pour les fêtes de fin d'année, l'ORTF avait proposé aux Français un dramatique en costume et en chanson, une adaptation du Zadig ou la destinée conte philosophique de Voltaire.
Il y avait à Babylone, au temps du roi Moabdar, Zadig, un fort beau jeune homme, riche, discret, peu bavard, entreprit une aventure avec dame de la cour. Le sort.
Incroyable, non ?
Formidable.
Incroyable. Pourquoi l'appeler Zadig, cette revue trimestrielle qui va raconter la France, alors que le Zadig, lui, se balade dans un Orient de pacotille ?
Oui, qui est un Orient qui est pour mieux d'ailleurs critiquer les institutions françaises.
Ouais. Mais il raconte le voyage, il raconte l'ailleurs.
C'est un voyageur, Zadig, c'est aussi un obstiné. Oui. C'est quelqu'un qui ne baisse jamais les bras, qui ne renonce jamais, et qui considère que la destinée, précisément, n'est pas une fatalité, que c'est une liberté si sa volonté propre agit. Et donc, je pense qu'il correspond bien. J'avais le choix, je m'étais donné un choix entre Voltaire et Victor Hugo, en fait, pour appeler cette revue. Et puis, finalement, j'ai opté pour un personnage comme Zadig, et puis le Z, ça claque bien. Oui. Vous avec Z en grec, c'était Costa Gavras qui nous l'a appris, ça veut dire « il est vivant ». Et moi je veux faire un magazine vivant.
Voilà, le regard neuf, le regard naïf. Est-ce que c'est pas tout le contraire de
non,
ce que vous allez
Zadig
faire ?
Zadig n'est pas naïf, c'est Candide qui est naïf.
Oui.
Précisément. Zadig n'est pas, il est très lucide.
Il est lucide et en même temps, il faut bien, pour cet Orient de pacotille, oui, il faut bien l'étonner. Il faut bien que son regard soit nouveau. Il faut bien que, justement, il soit obligé de dessiller.
Oui, bien sûr. Je pense que c'est quelqu'un qui traverse des épreuves et donc il tire les leçons de ces épreuves à chaque fois. Il est défiguré, il est déchu, il lui arrive beaucoup de choses dures, mais malgré tout, il surmonte. Donc je pense que pour raconter la France, qui justement est résiliente. Zadig est probablement le personnage le plus résilient de la littérature. Et j'avais envie de construire une offre éditoriale sur une forme de résilience de la France, c'est-à-dire comment on la répare, comment on fait en sorte qu'elle peut avancer sans être exactement celle qu'elle était hier et comment elle va devenir demain.
Alors justement, c'est un objet extrêmement complexe, la France. C'est l'objet même de toutes les crispations. Est-ce que notre pays est plus complexe à appréhender aujourd'hui qu'en d'autres temps? Ou est-ce que tout simplement, c'est son appréhension qui est sans cesse remise en cause? Et je ne vous parle pas forcément d'une appréhension médiatique, appréhension aussi politique. On a la sensation, l'intuition, et pour certains même la certitude, que de moins en moins de gens comprennent la France et que ceux qui la comprennent mal.
C'était ça un peu mon point de départ. Je voulais rendre la France lisible. Et quoi de mieux que la lecture pour rendre les choses lisibles? Elle est illisible, elle est imprévisible. Mais si je vous rappelle, vous avez cité le 1 tout à l'heure, le premier numéro du 1, il y a bientôt 5 ans, le titre, c'était « La France fait-elle encore rêver ?». Donc si vous voulez, pour moi, il y a une cohérence de ma démarche, c'est de dire comprendre l'époque dans laquelle on vit et comprendre le pays dans lequel nous sommes. Je voulais essayer de raconter le roman vrai de la France, qu'on la lise à livre ouvert, et il n'y a rien de pire, c'est Rosan Vallon dans notre premier numéro, qui est Pierre Rosan Vallon qui cite Michelet, en disant rien de pire qu'un pays où les uns ignorent les autres.
Il y a une symétrie avec le projet d'América. Est-ce qu'il y a une symétrie, c'est-à-dire voir surgir un projet éditorial, qui est un projet journalistique et littéraire, on va parler justement de ce mélange des sources, des voix et des genres, mais de voir surgir à un moment politique clé, c'est-à-dire est-ce que Trump a fait naître América pour raconter l'Amérique, est-ce que Macron, et je ne dis pas le personnage de Macron lui-même, mais toute la cohorte de bouleversements qu'il a suscité a fait naître Zadig.
Alors, América, on l'a créé, c'est François Bunel qui a eu cette idée formidable. On l'a fait ensemble, tous les deux, en une heure sur le coin de mon bureau. Donc, c'est quelque chose c'est une idée de journaliste. On dit, mais qu'est-ce qu'on va raconter sur l'Amérique? Et évidemment, François, avec toute sa connaissance de la littérature américaine, a dit, on va faire que ce sera les écrivains. Sur Zadig, c'est un peu différent parce que ça fait 2 ans qu'on y pense. Pendant la campagne présidentielle, on s'est dit, il se passe quelque chose dans ce pays qu'on ne comprend pas.
Donc là aussi, le moteur
a été notre société qui change, et qu'on ne comprend pas. Voilà. Et moi, je pense qu'effectivement, cette idée de rendre compréhensible ce qu'on ne comprend pas, il y a des mots porteurs comme il y a des murs porteurs. Et il faut dire des mots. Je pense que ce pays manque d'un récit qui le fédère, qui lui ressemble et donc qui le rassemble. La Startup Nation, c'est pas un récit. Donc, si vous voulez, il faut essayer par des mots et des regards très différents, parce que c'est une polyphonie, de décrire. Vous savez, c'est comme un cadavre exquis sans cadavre.
Donc, América comme Zadig sont finalement des contre-récits. Des contre-récits aux récits médiatiques et aux récits politiques. C'est intéressant. Je vous fais écouter Éric Fautorino, Michel Houellebecq, par ordre d'apparition, Virginie Despentes, Leïla Slimani.
La France qui est périphérique, qui hésite entre Marine Le Pen et rien, je me suis rendu compte que je la comprenais pas, que je la voyais pas, que j'avais... perdu le contact. Et ça, quand on veut écrire des romans, je trouve que c'est une faute professionnelle assez lourde.
J'adhère complètement à l'idée qu'il y a une guerre des riches contre les pauvres et que c'est une guerre impitoyable. Parce que je crois que c'est un des thèmes obsessionnels pour certains d'entre nous de l'époque. Et je suis même pas sûr qu'ils aient intérêt à la gagner, qu'ils aient raison in fine de la mener.
Pour moi, les relations que les femmes ont avec les hommes ne sont pas que des relations d'ordre sexuel. Nous, les femmes, nous travaillons, nous nous battons, nous sommes soumises aux mêmes pressions que les hommes. Nous voulons simplement réclamer notre juste part du monde.
Éric Fautorino, les journalistes sont-ils toujours et encore les narrateurs du monde?
Alors, ils ne sont plus les seuls. Ils ont longtemps eu, non pas ce monopole, parce que les écrivains ont toujours existé. Vous verrez que dans le premier numéro, on a un texte de Balzac dans une collection qui s'appelait « Les Français peints par eux-mêmes », 400 fascicules, il fait le premier sur un épicier, sur ce qu'on appelait les invisibles. Donc je pense que la narration des journalistes aujourd'hui, elle est soumise à la tyrannie de l'instant. Or, si vous voulez comprendre, il faut faire les choses avec le temps. Ce que vous faites contre le temps se charge de l'oublier. Et ce qu'on a voulu, nous, quand Houellebecq dit « on a perdu le contact », il a absolument raison. Nous, on veut, dans Zadig, avoir un contact intime avec la France. Et surtout, on ne veut pas dire comment pensent les Français. On veut raconter leur vie. C'est toutes les Frances qui racontent la France et qui font la France. Donc, je pense, Léla Slimani, qui est chroniqueuse de Zadig chaque trimestre, sur, effectivement, hommes et femmes, il faut traiter les gens différemment puisqu'ils sont différents.
Et si je vous dis Leïla Slimani encore? Ouais. Est-ce que, voilà, je vais évidemment me faire l'avocat du diable et aller tout à fait contre
ma
manière.
Présentez-moi le diable.
Contre ma manière de penser. Parce que, évidemment, quand je vous dis Houellebecq, Slimani dépend, là aussi, on a l'impression d'entendre un peu toujours les mêmes. Probablement qu'il y a une défaite du journalisme derrière ça, mais peut-être est-ce qu'il y a aussi une défaite de la littérature, ou du moins de la façon dont les médias parlent de la littérature. Est-ce que, en faisant raconter notre société sur tous les plateaux télé et dans toutes les émissions de radio à tous ces écrivains formidables qu'on vient de citer, on n'enlève pas à la littérature son pouvoir de création, son pouvoir de radicale altérité, son pouvoir de nouveauté? Je vais encore plus loin contre moi-même. Qu'est-ce que j'en ai à cirer que ces gens-là racontent l'époque? Finalement, qu'est-ce que j'en ai à cirer qu'ils mettent en mots un goulag d'il y a 70 ans, les affres mélancoliques d'une femme du 17e siècle, ou même des choses totalement abstraites? Ce qui m'importe finalement, c'est leurs mots, c'est leur capacité à changer une vie, pas qu'ils me racontent ma société.
Bah, je pense que le regard des... Vous savez, les écrivains, ils ont une peau en moins. C'est-à-dire qu'ils sentent des choses qu'on ne sent pas. Pourquoi Houellebecq sur Soumission, pourquoi Houellebecq sur La carte et le territoire a dit des choses quand il raconte la muséification de la France en 2050, il parle déjà d'aujourd'hui, Houellebecq. Donc quand je dis ils ont une peau en moins, c'est-à-dire que précisément, ils ne sont pas comme nous journalistes dans cette espèce de feu battant de l'instant, de la réactivité immédiate. Donc ils voient des choses,
mais est-ce que
ils voient aussi une forme de fiction.
Ne les a pas contraints à devenir leurs propres journalistes, à faire que cette parole médiatique, finalement, ait plus de poids que leur œuvre et que leur texte?
Non, moi je pense que c'est un tout. Vous savez, je pense qu'il faut écrire un récit tissé de tous les récits. Dans Zadig, il y a Jean-Louis Letouzé qui fait un reportage dans les Hauts-de-France avec une infirmière qui voit une cinquantaine de patients dans la journée. Je peux vous dire que c'est très fort. On a un jeune Arthur Freyer-Lalex qui va avec des marins pêcheurs du Guilvinec pendant 3 semaines à bord. On a le mal de mer dès qu'on lit la première page. Et puis, en même temps, il y a Christian Bobin qui raconte le Creusot, il y a Maïlys de Kerangal qui raconte le Havre de son enfance, il y a une nouvelle de Marie Darrieussecq qui est très très inconfortable et qui est magnifique sur les migrants. Donc non, moi je pense qu'ils disent le monde. Quand je demande à Laurent Godet, il y a 2 ans pour le 1, d'aller à Calais et qu'on fait un numéro qui fait un texte qui s'appelle Sigille la France, et qu'on dit Calais une honte française, moi je considère qu'on est à la fois dans la tradition de Kessel, d'Albert Londres, ou même de Marguerite Yourcenar quand elle va à Lampedusa en 1953 et qu'elle vous raconte Lampedusa comme si elle y était la semaine dernière. Les grands textes sont toujours des textes d'actualité. On parlait d'Ebola il y a quelques années, vous prenez la première page de Camus et de La Peste et vous avez le réel. Donc pour moi, la capacité des écrivains à dire le réel transcende tout.
Alors comme ça, un nouveau journal du
papier.
Vous m'avez
piqué un peu, hein,
du
voyez.
Du papier, alors. Bah oui, mais vous avez bien, j'ai bien fait. Du papier, voilà ce bruit-là, oui. Du papier.
C'est beau le bruit du papier.
Oui, c'est beau le bruit du papier. Donc vous continuez?
Oui,
parce à l'heure où toute la distribution de la presse en France est en train de s'écrouler, je rappelle que vous avez un pied en librairie, un pied en kiosque.
Oui.
J'imagine que c'est important d'avoir un pied en librairie
bien
au
sûr.
Moment où toute la distribution de la presse en France est en train de s'écrouler.
Vous savez, je pense que papier ou pas papier, c'est pas ça la question. La question, c'est de voir est-ce que vous avez des choses intéressantes à raconter. Moi, je suis un agnostique des supports. Je me sers comme vous des écrans toute la journée. Mmh. Mais je considère que lorsque vous avez des choses à raconter, et on en a sur Zadig, sur la France, comme dans America, sur l'Amérique, ou dans le 1, eh bien, le support papier est sans doute un des plus modernes. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas quelque chose qui surgit au milieu, une publicité ou une vidéo ou je ne sais quoi, un lien hypertexte qui va vous emmener ailleurs, au point que vous ne savez plus pourquoi vous étiez sur votre écran 10 minutes avant. Donc, c'est une lecture profonde, c'est une lecture plaisir, parce que quand vous lisez un long texte bien écrit, parce que la presse écrite, je disais ça à ma rédaction quand j'étais directeur du Monde, je disais souvenez-vous que la presse écrite doit être bien écrite, autrement c'est pas la peine. Donc si vous voulez, notre ambition à Zadig, comme tout ce qu'on fait depuis 5 ans, c'est que l'écrit sur du papier soit un écrit de plaisir et qu'il soit inspirant, qu'on apprenne toujours quelque chose.
Merci beaucoup Éric Fotorino. C'est très très énervant de ne pas l'avoir, ce journal dont vous nous parlez. On va attendre un petit mois?
Oui, mais alors vous savez déjà, pourquoi maintenant? Parce que c'est un financement participatif, donc sur KissKiss en ce moment, on peut déjà voir à quoi il ressemble, et y compris des maquettes.
Voilà, c'est de Zadig dont on vient de vous parler. Merci beaucoup Éric Fotorino, et bonne chance à toute l'équipe.
Merci,
de Zadig, merci Anne-Cécile Perrin, Marion Philippe, à Redouane Tella, à Lucie Bess Raza qui ont préparé et réalisé l'émission toute cette semaine, Juliette Delperro à la technique.